France Inter, il est 13h. Le 13-14. Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Le pouvoir d'achat priorité numéro 1 du gouvernement, répète Elisabeth Borne. Et si l'on taxait les profits de des géants de l'énergie pour financer les mesures? La Grande-Bretagne vient de le faire. Nous passerons par Londres. Est-ce applicable en France? L'inflation pèse aussi sur le budget des locataires. Bloquer les loyers, jouer sur l'indice des loyers, augmenter les allocations. Le gouvernement va devoir trancher. Sur les éoliennes, le cap est clair et répété par la nouvelle ministre de la Transition énergétique, ce ne sera pas à marche forcée, mais au rythme que la société est prête à accepter. Les explications du patron de Ferrero après l'affaire des produits contaminés à la salmonelle sont-elles suffisantes? Nous nous pencherons dessus et verrons quelles sont les zones d'ombre qui demeurent. Quand les réseaux sociaux mènent un procès en parallèle, avant le verdict dans l'affaire qui oppose Johnny Depp à son ancienne épouse aux États-Unis, nous nous arrêterons sur ce phénomène qui marque ce procès ultra médiatisé en Amérique. Dans l'actualité encore... L'histoire d'un coq noctambule qui pourrit la vie d'habitants à Avignon. Un autre animal à la une, cet orque coincé dans la Seine. Comment l'aider? Cannes à la veille du palmarès et la nouvelle vedette de la soul, Joy Crooks. À 13h30, en plein tournoi de Roland-Garros, toutes vos questions au tennisman Richard Gasquet. L'amitié avec Nadal, les grands matchs, les regrets, l'enfance de surdoué, la vie dédiée au tennis et qui lui a parfois échappé. L'affaire de la cocaïne avant d'être innocenté. Il raconte tout très directement dans un livre. Vos questions 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Les malheurs d'Haïti aujourd'hui viennent-ils de la somme astronomique exigée par la France après son indépendance? C'est la thèse d'une enquête du New York Times, passionnante mais contestable, nous dira Jean Lebrun dans le vif de l'histoire. Et puis les berruriers noirs, Hélène et le sang, c'est le choix de la réalisatrice féministe Ovidie dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
D'autres pays européens le font, pourquoi pas la France? Taxer les profits des grandes entreprises de l'énergie, la guerre en Ukraine entre autres a fait bondir les cours du pétrole et du gaz, taxer ces produits, ces profits par exemple pour financer les mesures pouvoir d'achat. En Grande-Bretagne, le ministre des Finances Rishi Sunak annonce un plan de 15 milliards de livres devant la Chambre des communes.
Les géants du secteur gazier et pétrolier engrangent des profits extraordinaires en raison de la flambée des prix des produits de première nécessité, due notamment à la guerre menée par la Russie. Cette nouvelle taxe vise les profits à hauteur de 25%. Elle est temporaire et lorsque les prix du gaz et du pétrole retrouveront un cours normal, elle sera supprimée.
Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Voilà pour la Grande-Bretagne, mais l'Italie et la Hongrie ont pris des mesures similaires. Alors pourquoi pas en France?
Alors décision politique, certes, mais beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît d'un point de vue fiscal. J'ai posé la question à l'économiste Xavier Timbaud, chantre d'une taxation sur tous les super-profits du CAC 40, à une exception près. Taxer ces super profits exceptionnels de Total n'ont pas de sens d'un point de vue fiscal.
C'est Total qui annonce des bénéfices, mais ces bénéfices sont réalisés sur des activités qui, en fait, n'ont rien à voir avec la France. Donc, en fait, on va taxer Total sur des activités qui ont lieu un peu partout dans le monde.
Contrairement aux compagnies britanniques qui exploitent du gaz et du pétrole en mer du Nord, les super profits de Total sont réalisés à l'étranger, par exemple au Nigeria. Et si le prix du pétrole devait rester au plus haut, c'est aux Nigérians de récupérer cette rente et non pas à la France de mettre la main dessus, explique l'économiste.
Pourquoi ce serait la France qui capturerait ces sommes? On s'expose exactement au même problème que ceux qu'on critique sur les GAFAM. Ils vont être taxés aux États-Unis, mais ça correspond à des activités qui sont faites en Europe. En fait, on utilise un argument que là, on oublie complètement quand il s'agit de Total.
En gros, la France dit vouloir taxer les entreprises sur le territoire, là où elle crée de la richesse, et dans le cas du pétrole, ce n'est évidemment pas en France que ça se passe. Reste donc l'idée d'une taxe exceptionnelle, comme le fait l'Italie, non plus sur la production de pétrole, mais sur les ventes. Et de ce point de vue-là, Total ne réalise pas non plus de bénéfices en France. Elle a déjà enclenché des ristournes à la pompe. Ce serait donc plutôt à EDF, de ce point de vue-là, d'être taxé en France, et non pas au pétrole. EDF évidemment déjà largement mise à contribution. gouvernement. Il faudrait donc inventer une taxation d'économie de guerre, conclut l'économiste, si l'on veut taxer a posteriori des bénéfices considérés politiquement comme des super-profits.
Et à l'instant, le G7 s'engage à cesser les subventions aux énergies fossiles à l'étranger d'ici à la fin de l'année. G7, les 7 pays les plus développés, dont la France. En tout cas, un peu plus de 2 semaines des législatives. En cette période de réserve, le gouvernement ne peut pas faire beaucoup d'annonces détaillées, mais il faut occuper le terrain. C'est le sens de la réunion du gouvernement cette fin de semaine à Matignon, chez Elisabeth Borne. Bonjour Maxence Lambrecq. Sans surprise, Maxence, sans surprise, la Première Ministre fait de la santé, du climat et avant tout du pouvoir d'achat ses priorités.
Avant de rejoindre tout à l'heure la place du marché de Condé en Normandie, Elisabeth Borne fait campagne dans la cour de Matignon à l'issue de cette réunion.
Des lois d'urgence pour le pouvoir d'achat seront les premiers textes de ce quinquennat et nous sommes convenus qu'il ne devait y avoir ni oublié ni angle mort. Outre les retraités, les salariés, les indépendants, les agents publics, j'ai demandé à mes ministres d'avoir une attention particulière pour les étudiants.
Des étudiants qui ont en grande majorité voté Jean-Luc Mélenchon le mois dernier et qui seront donc aidés. Période de réserve oblige, aucun détail n'est donné.
La deuxième urgence, c'est la santé.
Face au manque de personnel, des mesures pour l'été, promet Elisabeth Borne.
J'ai donné à mon gouvernement 3 mots d'ordre.
Au fond, la Première ministre ne peut qu'insister sur la méthode.
Rapidité, efficacité et résultat.
Un gouvernement rapide et efficace qu'elle réunira ainsi tous les mois, ça ne fait pas rêver, peste un député en campagne qui s'inquiète du manque d'enthousiasme suscité par Elisabeth Borne.
Et ce qui grève le pouvoir d'achat de bien des familles aussi, c'est la hausse des loyers qui va de pair avec l'inflation. Le sujet du logement est sensible depuis le premier quinquennat Macron. Chacun se souvient de la hausse des APL qui a contribué à l'image de président des riches accolée à Emmanuel Macron. Gare au gaffe donc, mais il y a des décisions à prendre, Claire Chaudière.
Si Elisabeth Borne a déjà dit qu'elle considérait le gel des loyers comme une fausse bonne idée, la question d'un coup de pouce sur les allocations logement est clairement sur la table aujourd'hui. 5 ans effectivement après cette baisse très contestée de 5 euros des APL que tout le monde garde en mémoire, explique Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre.
On se rappelle beaucoup ce moment-là, notamment avec le ministre à l'époque. Plusieurs membres du gouvernement à cette époque avaient dit c'est une erreur parce que finalement c'est une mesure aveugle qui touche les plus modestes et elle n'a pas été corrigée si vous voulez. On ne pensait pas que ça allait s'accentuer au fil des 5 ans avec d'autres mesures d'économie sur les APL. Et effectivement, on n'a pas été entendu. Voilà, mais là, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience.
Avec l'inflation galopante, la hausse structurelle quasi automatique annoncée des loyers dans les prochaines semaines, cumulée à la flambée des prix de l'énergie, la situation n'est, dit-il, de toute façon plus soutenable.
Donc, on porte une proposition dans l'immédiat, dans le projet de loi pouvoir d'achat, de pouvoir les augmenter maintenant de 10% pour rattraper en fait le retard du quinquennat précédent et puis pouvoir anticiper une inflation autour de 5%. C'est une mesure structurante, structurelle. C'est vraiment un levier, un vecteur qui permet de bien cibler les plus fragiles.
Si le logement représente en moyenne 1/3 du budget des ménages, pour les plus modestes, cette part peut monter jusqu'à la moitié, voire les 2/3 du portefeuille familial.
Et les élections législatives, c'est dans un peu plus de 2 semaines à présent. Nous nous arrêtons aujourd'hui dans la 5e circonscription de l'Essonne, en banlieue parisienne. Question en jeu dans la campagne ici, comment et faut-il à tout prix développer le plateau de Saclay, au lieu de la recherche et de l'enseignement, grand pôle d'innovation en France et même au-delà? Alors parole au candidat à votre micro, Antoine Gignot, candidat parmi lesquels on trouve un homme passé de La République En Marche au Vert et qui du coup est candidat de la NUP, l'Union de la Gauche, c'est Cédric Villani.
Mathématicien, écologiste, il met en avant sa double casquette. Pour améliorer le tissu économique, Cédric Villani veut à la fois encourager l'innovation et préserver les terres agricoles et boisées.
Oui, le plateau de Saclay, c'est emblématique, mais pas seulement des sciences et des technologies de l'innovation. Nous avons un intérêt vital à organiser la bonne synergie entre l'agriculture et les sciences.
En face, Paul Midi, le candidat LREM, parle des priorités écologiques du gouvernement et affiche son passé d'entrepreneur dans les nouvelles technologies, pendant que Benoît Audil, le candidat de Solidarité et Progrès, qui veut sortir de l'euro, promet en parallèle de créer des ponts internationaux autour de grands projets.
Ce qu'on doit développer là, bien sûr, sur le plateau, c'est un pôle scientifique et technologique qui puisse alimenter non seulement la réindustrialisation française, qui permette à d'autres pays dans le monde d'accéder aussi à un développement.
Un développement qu'il faut localement encadrer, corrige le candidat LR Michel Bourna, qui a contribué à sanctuariser les terrains du plateau, terrain qui, pour Didier Paxion, pourrait contribuer à aider les familles.
Je serais plutôt favorable à construire des logements, parce qu'on en manque. Après, c'est pas ça qui va nous sortir de la crise. Et puis, l'important, c'est que la population elle-même s'exprime. C'est pas que le plateau de Saclay.
Et le candidat de Lutte ouvrière s'appuie pour sa campagne sur des revendications nationales, salaire, pouvoir d'achat.
Et pour les Français qui vivent à l'étranger et qui sont inscrits sur les listes consulaires, ils peuvent voter depuis une heure par internet. Pour les autres, le premier tour, c'est le 12 juin. Cela ne surprend pas ceux qui suivent le dossier, il n'y a rien de nouveau, mais c'est un signe politique à l'approche de ces législatives. Le déploiement d'éoliennes en France ne se fera pas à marche forcée. Pour une de ses premières déclarations depuis qu'elle a pris poste, la ministre de la Transition énergétique a ces mots auprès de l'agence France Presse. Le déploiement de l'énergie éolienne en France se fera à un rythme que la société est prête à accepter, dit Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
C'est dans la lignée des déclarations d'Emmanuel Macron en février dernier.
Et oui, Emmanuel Macron ne cache pas sa préférence. Vitesse accélérée pour les éoliennes en mer, 50 parcs offshore d'ici 2050. Mais piano piano sur l'éolien terrestre, la France veut ralentir le rythme de déploiement qu'elle s'était fixé. Doubler la capacité installée, oui, mais sur 30 ans et non plus sur 10 comme c'était prévu. La nouvelle ministre de la Transition énergétique confirme et assume ce nouvel objectif, au grand regret du syndicat des énergies renouvelables qui regroupe les entreprises du secteur. Pour son président Jean-Louis Ball, les Français sont moins anti-éoliennes que ne le pense le gouvernement.
Si on avait écouté les mouvements d'anti-vax, on n'aurait jamais fait de développement de vaccins contre le Covid-19. Dans l'éolien, c'est la même chose. Il ne faut pas se contenter d'écouter les mouvements anti-éoliens, il faut mesurer l'acceptabilité réelle par la population française. Si on continue au rythme actuel le développement de l'éolien, on n'atteindra jamais la neutralité carbone en 2050. On est en train de prendre un retard qui s'amplifie chaque année.
La nouvelle ministre de la Transition énergétique confirme également qu'il y aura des simplifications administratives pour faciliter les projets d'éoliennes.
Et des excuses à présent ainsi que des promesses et des explications. Voilà ce que l'on retient de la longue interview du directeur général de Ferrero dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Plus de 80 enfants sont tombés malades à cause de chocolat contaminé à la salmonelle. Conséquence bénigne, mais très mauvais moment et inquiétude pour les familles. Ajra Mohamad, dans cette interview, Nicolas Nekoff annonce que 3000 tonnes de produits ont été retirées du marché. Le groupe a perdu 40% de son chiffre d'affaires à Pâques. Et en guise d'opération transparence, il annonce une série d'améliorations dans ses usines, comme donc un gage de transparence.
Et il faut rétablir le contrat de confiance avec les consommateurs. Nicolas Nekoff l'a bien compris. Dans cet entretien, le patron du groupe Ferrero en France revient d'abord sur l'origine de la contamination. Elle vient bien de l'usine d'Arlon, en Belgique, d'une cuve à beurre laitier. Mais impossible de savoir si ce sont les ingrédients versés à l'intérieur qui étaient contaminés par la salmonelle ou bien des employés qui l'ont manipulé. Les investigations se poursuivent. Quel que soit le résultat, on travaille dur pour que cela ne se reproduise jamais, affirme le PDG. Cette usine d'Arlon doit rouvrir le 13 juin, mais avant ça, les 10 000 pièces à l'intérieur vont être démontées et nettoyées une par une. Quant aux salariés, eh bien, ils devront passer par un sas de décontamination. Autre nouveauté, 50% des tests sur les matières seront confiés à un laboratoire extérieur, alors que jusqu'à présent, ils étaient tous réalisés en interne. Enfin, Nicolas Nekoff insiste, ce nouveau protocole sanitaire sera appliqué dans toutes les usines du groupe Ferrero, dont celle de Villers-et-Cal en Normandie, qui produit le Nutella et les Kinder Bueno, deux produits phares de la marque.
Et il promet également des indemnisations financières aux familles de victimes. Réaction de Jérémy Calfon, l'avocat de plusieurs familles normandes, ce n'est pas l'argent leur première priorité.
Aucune ne m'a parlé d'indemnisation. Aucune ne réclamait de l'argent, aucune ne réclamait quelque compensation que ce soit. Ce qui a motivé la plupart des familles à m'appeler, c'est l'attitude de Ferrero tout au long de cet épisode, de ce scandale, parce que c'est un scandale. Sur les 14 plaintes que nous avons déposées, 12 contaminations auraient pu être évitées. 12, parce que 12 contaminations ont eu lieu entre le moment où les premières salmonelles ont été détectées dans l'usine et le moment du rappel des produits. Et depuis le départ, Ferrero, dans cette affaire, n'a pas les bonnes réponses et n'a pas les bonnes réactions, malheureusement.
Propos recueillis par Manon Lombard-Brunel de France Bleu Normandie. De nouveaux fils continuent d'apparaître dans l'affaire qui secoue le monde de l'art dont nous vous parlons depuis mercredi. L'ancien président du Louvre, Jean-Luc Martinez, a été mis en examen pour blanchiment et complicité d'escroquerie. Chargé de l'expertise de pièces d'archéologie égyptienne vendues au Louvre Abu Dhabi, a-t-il été négligent? A-t-il fermé les yeux? A-t-il été dupé? En tout cas, il y a de gros doutes sur les certificats qui authentifient ses œuvres. Et cette affaire est une partie d'une très vaste enquête sur des filières clandestines de revente d'antiquités pillées au Proche-Orient. Parmi les fils à tirer, le rôle de deux institutions, le ministère de la Culture à Paris et l'agence France Muséum, chargée des collections du Louvre à Abu Dhabi, créée après l'accord entre gouvernement des Émirats Arabes Unis et de la France. Comment se fait-il que ces deux institutions aient laissé passer la vente de pièces à l'origine douteuse? Question à un très bon connaisseur du marché international de l'art, le journaliste du Monde, Harry Bellet.
On peut dire qu'il y a eu des trous dans la raquette, en effet. La règle qui a été dictée par le ministère de la Culture veut que, en cas d'acquisition par un musée français, j'imagine s'appliquer aussi quand des conservateurs français travaillent pour Abu Dhabi, l'œuvre doit être documentée par un historique le plus précis possible. Alors, on peut être expert en antiquité égyptienne, ce que n'est pas M. Martinez, il est expert en antiquité grecque, mais on peut être un expert en antiquité et pas du tout un expert en documents. Ça, c'est malheureusement, peut-être il lui fallu s'adjoindre les services de quelqu'un qui sait analyser un document, un chartiste par exemple. Si en plus ils s'entendent bien avec leurs copains experts dans les antiquités, ils peuvent ensemble déterminer que tel marchand n'a jamais existé, que telle pièce n'était pas dans la collection du musée qui est supposé l'avoir vendue, etc. Et s'il y a un doute, on doit renoncer à l'achat. Malheureusement, après l'achat, Marc Gabold de l'Université de Montpellier a été consulté et lui avait eu des vrais doutes sur le parcours, sur le pédigré de l'œuvre. Et on ne l'a pas écouté. C'est une catastrophe, ça, ce genre de façon de fonctionner. Le Metropolitan a pris la décision de restituer au moins un sarcophage aux autorités égyptiennes. J'attends de savoir si Abu Dhabi restituera aussi des œuvres qui, très probablement, ont été volées.
Un propos recueilli par Isabelle Pasquier, 15 jours après la mort de la journaliste Shirine Abu Akleh lors d'un reportage à Jenin, en Cisjordanie. Le procureur en chef palestinien a rendu ses conclusions hier. Elle a, selon lui, été la cible du tir d'un soldat israélien. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Alors il n'est pas le premier, le procureur, à mettre en cause l'armée israélienne, mais l'absence totale de coopération entre les parties complique cette enquête.
Oui, la partie palestinienne refuse de coopérer avec l'armée israélienne par manque de confiance. Les Israéliens demandent que les Palestiniens qui ont autopsié notre consoeur leur transmettent la balle qui l'a frappé mortellement, ce qu'ils refusent. Et voilà aux Israéliens un argument massu pour dénoncer la mauvaise volonté de leurs interlocuteurs. Le rapport du procureur palestinien, comme l'enquête de CNN, se fonde sur des tirs, sur la distance des tirs et surtout la hauteur des impacts de balles autour de Shirine Abu Akleh. La chaîne américaine, comme le site d'investigation Bellingcat avant elle, diffuse des vidéos et l'on découvre qu'il n'y a pas eu d'échange de tirs, pas d'affrontement, contrairement aux propos de l'armée israélienne. Cette semaine également, Bruno, le Times of Israel nous apprenait qu'un fusil de l'armée israélienne avait peut-être été identifié comme à l'origine du tir, mais pour confirmation, il faudrait la fameuse balle. L'armée israélienne n'a pas communiqué les images de ces drones qui ont pourtant tout filmé. Elle a ouvert une enquête sur le déroulement des faits, mais elle a annoncé qu'il n'y aurait pas d'investigation criminelle.
Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem pour France Inter. En Ukraine, l'armée russe ne se contente pas d'attaquer le Donbass, à en croire les Ukrainiens. Plus au centre du pays, une frappe russe sur un terrain militaire de Dnipro a fait 10 morts.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
C'est un procès totalement hors norme qui dure depuis un mois et demi en direct à la télévision. Il approche désormais de son terme. Les avocats présentent leurs conclusions dans quelques heures, puis les jurés se retireront pour délibérer. Alors bien sûr, il y a un côté people et beaucoup d'argent en jeu, mais cela va au-delà. Depuis le 11 avril, à Fairfax, près de Washington, se tient ce procès qui oppose Johnny Depp, l'acteur de Pirates des Caraïbes, à son ancienne femme Amber Heard. C'est lui qui la poursuit pour diffamation. En 2018, elle avait publié une tribune dans le Washington Post, où elle se dépeignait comme une personnalité publique représentant les violences conjugales. Johnny Depp estime que cela a fortement nui à sa carrière. Il réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Il l'accuse par ailleurs d'être elle-même violente. Elle contre-attaque en demandant une somme double. Bonjour Constance Villanova.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, l'une des autrices de l'émission de France Inter Affaires Sensibles, et vous avez publié un long article dans Le Monde sur un aspect de ce procès que nous allons creuser avec vous. Il est filmé, retransmis en direct à la télévision, ultra médiatisé, et il se tient en parallèle sur les réseaux sociaux avec une ampleur peut-être jamais vue, en tout cas une ampleur très impressionnante.
Oui, tout à fait. Il y a énormément des millions d'internautes qui ont pris fait et cause pour dans ce procès, qui vont surtout se retrancher derrière la personnalité de Johnny Depp. Mais c'est un procès qui déclenche énormément d'engagement sur les réseaux sociaux. À titre d'exemple, le hashtag Justice for Johnny Depp, oui. Donc justice pour Johnny Depp, là aujourd'hui a engendré, enfin depuis le début a engendré 16,9 milliards de vues. Voilà. Donc c'est un procès vraiment qui déferle comme jamais sur les réseaux sociaux.
Et sur TikTok en particulier. Et alors que le portrait qui est fait de lui au procès est assez ravageur, selon son ex, l'actrice Hélène Barkin, elle est venue décrire un homme ivre presque tout le temps, coléreux, jaloux. Sur les réseaux sociaux, c'est plutôt Johnny Depp qui sort vainqueur.
Oui, tout à fait, c'est assez impressionnant. C'est comme si la défense d'Amber Heard n'existait pas. Tous les internautes se sont retranchés derrière lui, et même les comptes qui vont défendre Amber Heard, son ex-conjoint, oui, sont victimes de raids, de harcèlement. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a un procès parallèle qui se passe sur TikTok et qui est celui du martyr Johnny Depp, le martyr post-MeToo, qui fait face à une femme qui est dépeinte comme menteuse. Donc c'est assez dingue, il est dépeint comme quelqu'un de très sympathique, et ses avocats même, les avocats de Johnny Depp qui le défendent, ont leur hashtag, et on va prêter par exemple une relation romantique entre Johnny Depp et son avocate, avec de la musique assez mignonne, enfin c'est assez hallucinant.
Et vous parliez de MeToo en un tout petit mot, c'est comme si au fond l'aspect MeToo de ce procès, la défense des femmes victimes de violences conjugales, était passé derrière l'aspect people.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu un feuilletonnage même de la part des médias et de la presse à scandale de ce procès. Les médias qu'on peut qualifier d'institutionnels, de mainstream, ne s'en sont pas emparés. Donc, ça a créé un appel d'air. Et maintenant, en fait, ce procès, il est suivi. Donc, il est diffusé en direct, vous l'avez dit. Il est aussi diffusé en direct sur TikTok. Et il est suivi comme un feuilleton, ouais, comme une série pour ados ou comme un match. Et on oublie, on élude complètement l'aspect violence conjugale et on regarde simplement une joute.
Merci, Constance, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Verdict soit ce soir, plus probablement en début de semaine prochaine dans ce procès. À Cannes, il reste deux films en sélection officielle à voir avant le palmarès demain soir. Showing Up de l'américaine Kelly Richards et la française Léonore Serrail avec le film Un petit frère. Hier, c'est le japonais Hirokazu Kore-eda qui présentait Les bonnes étoiles. Ça se passe en Corée du Sud. Il y est question de bébés abandonnés revendus au plus offrant. Alexis de Meyer.
Un soir de pluie, une jeune femme dépose son bébé dans une boîte devant un orphelinat. Elle va vite se rendre compte que des bénévoles veulent vendre l'enfant. Cette boîte à bébé pourrait être une belle trouvaille de scénario, mais c'est en fait bien réel, comme nous l'explique Hirokazu Kore-eda.
Ce dispositif existe vraiment. Il y a une boîte à bébé au Japon et une autre à Séoul, en Corée du Sud. Sachant qu'à Séoul, 10 fois plus de bébés sont recueillis qu'au Japon. Évidemment, ce système divise l'opinion coréenne. C'est devenu ces dernières années un véritable sujet de société qui est beaucoup débattu dans les médias. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire le matériau d'un film.
Une femme, deux hommes et un couffin prennent alors la route à bord d'un van. Ce sont des anti-héros qui nous entraînent dans ce road movie. Le cinéaste convoque pour l'occasion plusieurs stars coréennes et notamment Song Kang-ho, le héros de Parasite.
J'ai toujours apprécié cet acteur parce qu'on a l'impression que le bien et le mal cohabitent en lui. C'est-à-dire que parfois il peut avoir un sourire éclatant et pourtant on sent qu'il a toujours un petit nuage au-dessus de sa tête. Et quand il incarne un méchant, il y a toujours un fond d'humanité. Cette ambiguïté m'a toujours séduit et c'est en pensant à lui que j'ai écrit le film.
Ce film très touchant, séduit par la finesse de son propos, et c'est avec tendresse que Kore-eda filme les affaires de cette famille dysfonctionnelle.
Et demain, la soirée spéciale palmarès du Festival de Cannes à partir de 20h sur France Inter. De Cannes aux salles du concert, aux salles de concert. À Paris ce soir, la chanteuse Joy Crooks sera sur scène. Anglaise, 23 ans, nouvelle Amy Winehouse. Voilà pour l'étiquette. Côté vente, son premier album Skin est arrivé dans le top 5 des meilleures ventes de disques en Angleterre. Et Mathieu Culeron, c'est sans doute un des grands noms de demain que les spectateurs de la Gaîté Lyrique pourront applaudir tout à l'heure.
Chanteuse surdouée et précoce, Joy Crooks survole actuellement le courant New Soul R&B en Angleterre. Un talent d'écriture qui commence par une passion pour la poésie.
J'ai beaucoup de carnets où j'écris les paroles. Je collectionne les livres de poésie également et les textes de Leonard Cohen et de Pablo Neruda. J'essaie toujours de trouver des textes et des mots pour mes recherches personnelles. J'ai le syndrome de l'imposteur parfois, car j'ai du mal à me dire que ce que je fais est un vrai travail.
I'm scared of you, 'cause you got poison.
Joy Crooks découvre le jazz et le blues à 13 ans. Deux ans plus tard, elle compose un titre que l'on retrouve dans son premier album.
Dans cet album, Poison est le titre le plus ancien. Je l'ai écrit à 15 ans, j'étais folle et très en colère à ce moment-là. J'avais beaucoup de problèmes familiaux. Je suis fière d'avoir pu à cet âge synthétiser toute cette colère dans une chanson si sophistiquée.
I wish I could pull away the clothes that
Joy Crooks en concert ce soir à la Gaîté Lyrique. La dernière chance de voir la chanteuse londonienne avec une telle notoriété dans une si petite salle.
Voilà pour Joy Crooks. Un mot pour vous rappeler que dans 5 minutes, notre invité à 13h30 sera Richard Gasquet, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. Cette histoire qui fait sourire d'abord avant la météo. Sourire sauf les habitants d'une résidence d'Avignon depuis 6 mois. Un coq a pris ses quartiers d'été au pied de leurs habitations et il est du genre noctambule et fêtard. Est-ce un voisin taquin ou mal intentionné qu'il guide? Le coq vient-il de lui-même? En tout cas, c'est l'enfer. Récit David Doba, France Bleu Vaucluse.
Ce bruit, Corinne et Madeleine ne le supportent plus depuis qu'il a fait irruption sous leur fenêtre. Le volatile leur rend la vie infernale.
Il gueule de 2h du matin à 8h du soir.
Au point d'ailleurs qu'un matin, Madeleine a employé les grands moyens.
Je suis arrivé avec un grand drap. J'ai essayé de le capturer.
Mais devant cet échec, c'est Corinne qui a pris les choses en main avec...
une épuisette de poisson, un filet camouflage, tout.
Alors, l'histoire pourrait évidemment prêter à sourire, mais en réalité, les nuisances sont bien réelles.
La police nous a envoyé la société des captures... mais chat et chien, donc pêcheurs, ils sont pas bien sûr outillés. On ne sait plus quoi faire, quoi.
Quant aux autres voisins,
ils n'en peuvent plus, mais il n'y a que nous qui faisons. On arrive. Ils peuvent des poules enragées, si vous voulez que je vous dise.
À bout de nerfs, elles ont même pensé faire appel à des chasseurs. Une idée à oublier immédiatement, selon Philippe Case, membre du service maltraitance à la SPA vauclusienne.
Le code pénal prévoit une contravention de 5e classe, qui veut dire que la personne, concrètement, encourt jusqu'à 1 500 € d'amende.
Mais c'est en revanche du côté de la mairie qu'il faut chercher la solution.
Pour les animaux en divagation, clairement, c'est d'abord de la responsabilité de la mairie. Elles ont plusieurs obligations, notamment d'avoir des conventions de fourrière afin d'anticiper ce genre de problème.
En attendant, le coq a encore quelques beaux matins devant lui et Corinne et Madeleine... quelques nuits blanches.
Les pauvres, allez, des nouvelles d'un autre animal dont le sort suscite plus de compassion. Comment aider cet orque perdu dans la Seine entre Rouen et Le Havre, repéré pour la première fois il y a 11 jours? Est-ce qu'on peut la guider vers l'estuaire de la Seine pour qu'elle retrouve l'eau salée? Est-ce qu'on peut la soigner, la nourrir rapidement, Sophie Becherel?
La préoccupation des naturalistes est d'autant plus grande que ce jeune mâle ne semble pas en excellente santé, suivi depuis une semaine, vous l'avez dit, par le groupe d'études des cétacés du Cotentin. Il aurait perdu du poids. Son séjour en eau douce commence à générer des mycoses sur sa peau. Toutefois, il nage encore, il lui reste de l'énergie. Mais alors, comment lui faire demi-tour, sachant que la Seine est un fleuve non rectiligne, avec beaucoup de boucles, souligne Alexandre Gagné, biologiste spécialiste des cétacés.
Là, ça semble quand même très difficile, parce que bon, comme vous le savez, il y a des méandres dans la Seine. Donc pour parvenir jusque-là, l'orque est monté, descendu, nord, sud, ouest, est. Je pense qu'il est désorienté par rapport à sa possibilité de nager dans la direction qu'il voudrait. Et que le fait qu'il y ait beaucoup de méandres et qu'à l'endroit où il se trouverait actuellement, c'est-à-dire à une 50aine de kilomètres, sans doute, par voie maritime, fait qu'il ne ressent plus la salinité de l'eau. Donc effectivement, il est en dehors de son habitat naturel. Il ressent encore les marées, puisqu'il y a un bon marnage de marées encore jusqu'à Rouen. Mais les méandres vont l'empêcher de trouver une solution simple.
Il n'existe pas de protocole d'assistance pour ce genre de situation, mais face au précédent, des choses ont été tentées par le passé. On peut commencer d'ailleurs par se demander s'il ne faudrait pas le nourrir, puisqu'il est en eau douce et qu'il n'a pas son menu favori. Est-ce qu'on ne peut pas l'inciter à faire demi-tour par des sons? Encore faut-il identifier ceux de son groupe pour qu'ils fassent sens pour lui. Faut-il imaginer une flottille d'embarcations qui le guiderait gentiment vers l'estuaire, poser une ligne de bouées avec des pendants entre les deux rives du fleuve, comme cela s'est déjà fait ailleurs dans le monde? monde. Toute intervention humaine est source de stress pour cet animal. Une étude menée par des chercheurs internationaux sur ces cas de piégeage naturel a montré l'an dernier qu'en moyenne, les orques piégés pouvaient nager 36 jours sans toutefois toujours réussir à gagner le large. Certains sont morts au bout de 58 jours de faim, de stress, voire de prolifération bactérienne.
Merci Sophie Becherel. Dans un instant, la météo.
Bonjour madame, nous comptons vous cambrioler demain. Vous serez bien à votre travail.
Ah oui, absolument. Écoutez, vous pouvez pas rater la maison, c'est celle avec la pancarte Omiris. Ah, tiens, mais il a raccroché.
On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par UPS, AgriCNAPS.
France Inter aime...
Les Crimes du Futur, un film de David Cronenberg, en sélection officielle au Festival de Cannes.
It is time to stop seeing. It is time to listen.
Dans ce monde du futur imaginé par Cronenberg, l'être humain sera-t-il capable de s'adapter pour survivre et s'épanouir?
Have we just been made obsolete?
Maybe.
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, Les Crimes du Futur, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
De plus en plus de soleil pour cet après-midi.
Ouais, le soleil est déjà généreux entre le sud du Massif central, les plages du Languedoc, la Côte d'Azur et les Alpes du Nord, alors qu'une perturbation peu active donne un ciel chargé sur la moitié nord. Progressivement, le soleil va gagner du terrain. Il est déjà revenu sur le Nord-Pas-de-Calais et dans le sud-ouest. Le ciel va se dégager au nord de la Seine et entre le Poitou-Charentes et la Franche-Comté. De belles éclaircies vont aussi se propager jusqu'aux côtes nord de la Bretagne, à la Normandie, à l'Île-de-France et à la Champagne. En revanche, les nuages resteront nettement prédominants entre le sud Finistère, les pays de la Loire, la Bourgogne et l'Alsace. Et puis en Corse, le ciel sera bien voilé, voire même laiteux sur le sud. Attention également à l'évolution instable sur les Alpes du Sud. Quelques averses vont se développer, pouvant même tourner à l'orage. Et puis l'ambiance est chaude sur le sud, avec même de fortes chaleurs dans le sud-est. Les stations de Nice, Fréjus, Cannes ou encore Bastia ont déjà battu leur record mensuel de chaleur. Pour cet après-midi, prévoyez 33 degrés à Marseille, 31 degrés à Ajaccio, 27 degrés à Toulouse, 23 degrés pour Lyon et Nantes et 21 degrés à Dijon, Paris, Strasbourg et à Brest.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
C'est l'histoire d'un gamin qui a fait la couverture de Tennis Magazine à 9 ans. Histoire d'un surdoué qui a fait une très belle carrière, mais à qui il a manqué 5%, les 5% nécessaires pour être aux côtés des plus grands. L'histoire d'un homme qui a le sentiment que d'autres ont bien souvent pris sa vie en main. Histoire d'un garçon d'une génération dorée qui est le copain de Raphaël Nadal. Si les artistes du tennis sont un revers à une main, McEnroe, Edberg, Federer, alors il est de cette trempe-là. Bonjour Richard Gasquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter en duplex depuis Roland-Garros. À revers et contre tout, c'est le titre de votre autobiographie coécrite avec Franck Ramella, ça paraît chez Stock. Texte d'une rare sincérité, préfacé par le copain Nadal. On le lit avec d'autant plus d'intérêt alors qu'avec cette édition de Roland-Garros, une page se tourne dans l'histoire du tennis. Votre génération des mousquetaires est en train petit à petit de quitter le devant de la scène. Pour vous, 36 ans bientôt, la retraite n'est pas encore d'actualité, mais le livre ressemble bien à un bilan. Au fond, je me suis demandé en le lisant, qu'est-ce qui l'emporte chez vous, des regrets et des bonheurs après cette carrière?
Bah, forcément déjà énormément de bonheur,
ouais.
Parce que c'est fabuleux voilà, d'avoir été un enfant, d'avoir regardé Roland-Garros à la télé et de pouvoir le jouer 19 fois, d'avoir fait une carrière sur tous les plus grands cours du monde, c'était exceptionnel, d'avoir joué des joueurs fabuleux. Voilà, je me suis régalé. Après, forcément, t'as toujours des petits regrets, des petits remords, parce qu'en fait, voilà, je vais pas dire le contraire, j'ai pas gagné Grand Chelem.
Ouais.
Voilà, donc t'as toujours des petits, dans une carrière, t'as toujours des petites choses. Mais bon, malgré ça, j'ai quand même tout donné pour être le meilleur possible. C'est pas passé, j'ai été septième, j'ai fait trois fois demi de Grand Chelem, mais il y a eu toujours quelques joueurs qui m'ont arrêté pour la lutte finale. Mais en tout cas, ce qui prédomine quand même, c'est beaucoup de fierté par rapport à ma carrière.
Et vous parliez de Grand Chelem, il y a une question, vous dites, elle revient toujours, écrivez-vous dans le livre, c'est Christelle de Paris qui vous la pose aujourd'hui. Bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
Bonjour Richard.
Bonjour.
La question c'était comment analysez-vous le fait de ne pas avoir pu gagner de tournoi de Grand Chelem? Et secondairement, qu'est-ce qui manque? Parce que nous avons des joueurs qui gagnent Roland Garros junior et qu'on ne voit plus après dans les au meilleur niveau. Donc voilà mes deux questions.
Richard Gasquet. Bon,
la première réponse, c'est que voilà, c'est facile le tennis. Si on n'a pas gagné, c'est qu'on n'était pas assez fort par rapport aux autres adversaires. Tout simplement. Oui. Après, je pense qu'on a eu une génération qui était vraiment exceptionnelle. Quoi. Il y avait trois joueurs qui étaient grandioses, certainement les trois meilleurs joueurs de l'histoire, Federer, Nadal, Djokovic. Donc on s'est souvent tous arrêtés un peu sur eux, que ce soit en demi, en quart, ou même Joe Wilfried Tsonga en finale en Australie. Voilà, je pense qu'on aurait mérité, cette génération aurait mérité de pouvoir au moins gagner un grand chelem, mais bon, on n'a pas réussi. On aurait pu être meilleur aussi. Voilà, c'est clair.
Ouais, parce que vous donnez plus de détails dans le bouquin. Vous dites, il m'a manqué un grand service, peut-être des grands entraîneurs plus tôt dans ma carrière. Et à propos du service, vous dites, j'aurais pu davantage le travailler. Mais au fond, je me demande si j'en avais l'envie et le courage de ces gammes de services qu'on fait à l'entraînement. Vous dites, je les ai pas assez faites, sans doute.
Bon, certainement, bien sûr, c'est quand on a été 7e mondial. Voilà, il y a des failles, quoi. Pour être numéro 1, il faut être Federer, il faut être Djokovic. Ils ont certainement, voilà, tout fait. Après, exactement, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus, c'est toujours très très dur à dire. Mais en tout cas, voilà, c'était clair que c'était les meilleurs joueurs de l'histoire. On n'a pas réussi à les battre, en tout cas, dans les gros matchs de Grand Chelem. Mais c'est sûr que ça reste un petit regret. C'est difficile pour moi de me dire que j'ai perdu plus de 60 fois contre eux. C'est vrai que c'est quand même assez douloureux.
Et il y a des moments où vous dites, j'en ai pas assez fait, parce que ça m'a frappé ce passage sur voilà le service. J'ai des jambes hyper rapides, mais j'aurais dû développer plus le haut de mon corps. Voilà, on va dans les détails. Et vous dites, ouais, les gammes, sûr, j'avais pas envie de les faire.
J'aurais pu être plus fort physiquement, ouais, au niveau du haut du corps. J'aurais pu mieux servir. J'aurais pu de temps en temps prendre la balle plus tôt. Et c'est tout simplement pour ça que Nadal a gagné 21 Grand Chelem. Et que moi j'en ai pas, voilà, tout simplement. C'est ça, le tennis, c'est une science exacte. Voilà, moi j'ai été 7e, eux ils ont gagné. C'est que forcément j'ai plus de failles qu'eux. Après, je sais ce que je sais, c'est que j'ai quand même tout donné pour, ouais, pour essayer de les gommer, mais bon, c'est pas toujours passé. Après, voilà, c'est il y a un peu d'irrationnel aussi quand t'es Roger Federer ou Rafael Nadal. Mais ce que je sais, c'est que j'ai quand même beaucoup beaucoup donné. Forcément, on peut toujours plus donner. Mais en tout cas, voilà, dans la grande majorité de ma carrière, j'ai quand même fait le maximum pour essayer d'être le meilleur.
On reparle de Nadal dans un instant. Votre histoire, c'est aussi, je le disais en introduction, l'histoire d'un gamin absolument surdoué. Tennis Magazine, 1996, le magazine coûtait 30 francs à l'époque. Il y a cette couverture, Richard G, 9 ans, le champion que la France attend. Quand vous êtes gamin, chacun de vos matchs, même les petits matchs, il y a des centaines de personnes qui sont autour du court. Pour ceux qui connaissent le tennis, à 12 ans, vous êtes classé 5-6. Il y a une pression de dingue depuis que vous êtes gamin. Et au détour d'un chapitre, vous parlez d'un autre grand espoir qui était l'Australien Todd Reid, qui a mis fin à ses jours parce qu'il n'a pas supporté la pression. Elle a été si difficile que ça à vivre, cette pression?
Bon, c'était compliqué, c'est pas facile quand t'es jeune, que t'essaies de grandir un petit peu, d'avoir toute cette attention autour, voilà, tout ce monde qui est là, qui regarde les matchs, qui commente un petit peu les victoires, les défaites. Je trouve que quand t'es jeune, que t'es déjà dans un monde d'adultes, c'est pas facile à gérer. C'est pas évident. Donc, oui, je pense que il y a certains moments où j'ai eu du mal à m'en défaire, et je pense que ça a un peu freiné ma progression à certains moments. Oui, ça, j'en suis persuadé.
Et vous dites, et vous le dites à plusieurs reprises, que au fond, quand on est comme ça, un enfant surdoué du tennis, d'autres prennent votre vie en charge à votre place. Ça, vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu souvent comme ça, le côté je suis sur des rails et au fond j'ai pas toujours la conduite de ma propre vie.
Bah oui, il y a beaucoup de monde autour. Il faut être très solide. Et c'est vrai que quand t'es un enfant, c'est pas facile à porter, parce que t'es starifié assez vite. Tu joues Roland Garros très tôt. Tu fais face à des journalistes très tôt, face à beaucoup de choses où t'es pas forcément préparé. Et si t'es pas très très bien entouré autour, ça devient très compliqué. Je pense à un moment donné avoir perdu un tout petit peu de temps. Je l'ai rattrapé derrière, mais forcément, c'est des choses qui restent après, quand, pour gagner un grand chelem. je pense qu'il faut jamais perdre de temps, quoi. Voilà, que quand t'es tout jeune, et moi, j'en ai perdu un tout petit peu, je dirais à 17, 18 ans, ouais. Et je pense que ça m'a un peu freiné, ouais.
Alors, allons-y sur Nadal qui préface ce livre avec des mots extrêmement aimables pour vous. Avant d'affronter Richard, j'ai toujours pensé que je pouvais perdre. C'est une belle personne. Il doit être très fier de ce qu'il a accompli. Chacun trace ton chemin, peu importe le reste. Nadal qui était présent quand vous avez traversé cette affaire de cocaïne dont vous êtes sorti innocenté. Qu'est-ce qu'il a de plus que vous? Quand vous étiez gamin, vous le battiez. Et puis au bout d'un moment, c'est lui qui a tout le temps gagné. Qu'est-ce qu'il a de plus, Nadal?
Après, c'est un peu pareil que voilà, l'auditrice a posé la question. Ouais. Faut jamais oublier que ça reste des matchs d'enfants. Voilà, 13, 14, 15, 16. Ouais. Les juniors, ça n'a rien à voir. Quand tu peux gagner Roland-Garros junior et être un mauvais joueur derrière. En fait, c'est les gens qui ont cette image-là de gagner Roland-Garros junior. Mais ça veut pour moi absolument rien dire. Voilà, donc après oui, forcément, je l'ai battu jeune, on a toujours été comparés tous les deux, mais bon, je vous promets que c'est pas évident d'être comparé quand t'es jeune, d'être comparé à Nadal. Voilà, c'est pas évident parce que forcément tu vas décevoir. C'est vrai que dans la tête des gens, je ressens de temps en temps, voilà, tu es Nadal, tu l'as battu jeune. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est le meilleur joueur de l'histoire, donc c'est pas toujours facile à porter de se dire que voilà, t'as été avec le meilleur joueur de l'histoire et on t'a souvent comparé à lui au début, évidemment, parce qu'après la comparaison, on n'était plus du tout là.
Dans les vestiaires avant un match, il ferait presque peur, écrivez-vous avec Franck Ramella. Intensité, force brute, c'est la personne la plus concentrée que j'ai jamais vue. C'est ça, Nadal?
Oui, bah oui, c'est extraordinaire. C'est sûr que c'est un joueur phénoménal. Après, voilà, comme on a dit, ça, c'est irrationnel, c'est tellement incroyable de pouvoir se dire quand t'as gagné 13 fois Roland Garros que parfois on a du mal à, enfin même moi qui ai joué avec lui, j'ai du mal à m'en apercevoir la portée de ce truc là. Mais oui, Nadal, c'est sûr que c'est assez impressionnant. Mais bon, quand tu gagnes 13 fois Roland Garros, c'est sûr que ça
parle pour lui. Il y a un truc
en plus. Oui, largement, oui. pas que, malheureusement.
Et il y a ce moment, demi-finale de Wimbledon. Donc, demi-finale, il reste 4 joueurs. Il y en a donc 4 dans les vestiaires, plus que 4. Il y a Nadal, il y a Djoko, il y a Federer et il y a vous. Et il y a des moments où vous les avez battus, des moments de grâce. Par exemple, ce quart de finale à Monte Carlo en 2005 face à Federer qui se termine au tie-break. Vous sauvez 3 balles de match, vous gagnez sur un passing de revers, évidemment, venu de l'espace. Qu'est-ce qui se passe dans ces matchs-là?
Bah, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on joue au tennis. Voilà, c'est des sensations qui sont fabuleuses, qui resteront à vie. Savoir que le public est en folie derrière cette balle de match, que tout le monde me félicite et tout, c'est ça que je retiendrai du tennis, parce que j'ai pu, grâce à ça, vivre des moments hors du temps. Voilà, c'était fabuleux. Quand j'arrivais à battre des joueurs comme ça, c'était extraordinaire. Après, oui, Wimbledon, forcément, c'est quand t'es en demi-finale que voilà, tu rentres, t'es sur le banc dans le vestiaire et tu vois à côté Djokovic, Nadal, Federer, tu te dis que t'as pas forcément gagné le tournoi encore.
Oui, mais qu'en même temps t'as pas perdu ton temps et que t'es bien à côté de ces trois-là peut-être.
Voilà, ouais, c'est sûr.
Au moment de Roland-Garros, au fond, en ce moment-là, dans le stade, devant la télévision, il y a des milliers de gamins qui rêvent en voyant des joueurs comme vous. Mais en lisant ce livre, au fond, j'ai l'impression que les moments les plus heureux de votre vie, c'est ceux que connaissent peut-être ces gamins qui vous regardent, les années d'insouciance où vous viviez littéralement au club de tennis, vous y passiez vos journées.
Ouais, j'ai passé mes journées dans le club de tennis, j'ai été très heureux étant jeune. Voilà, le foot, les amis, le tennis, je pense qu'en France, on a une chance énorme, on a beaucoup de clubs, on a beaucoup de licenciés, beaucoup de bénévoles. Ça fait la richesse un peu du tennis français. C'est vrai que j'ai passé des moments fabuleux à regarder Roland Garros avec les amis. Mais après, sur le circuit, c'était quand même exceptionnel aussi. Bon, forcément, t'as moins d'insouciance, mais j'ai quand même vécu des moments, surtout grâce au public, qui sont quand même exceptionnels, quoi.
Alors, la génération des mousquetaires, d'ailleurs les copains qui sont pas toujours là, y compris Tsonga, dont vous êtes le plus proche, quand vous êtes en difficulté. Qu'est-ce qui manque au tennis français? Il y avait ça aussi dans la question de Christelle, et c'est le dernier chapitre du livre. Qu'est-ce qui manque au tennis français pour progresser, alors qu'une génération, une page est en train de se tourner? Vous parlez du carcan de la fédération, peut-être un peu trop serré pour les jeunes joueurs qui sont obligés de changer d'entraîneur régulièrement alors qu'ils pourraient établir un lien durable. On travaille pas assez la terre battue. C'est ça qui manque au tennis français.
Oui, il manque des choses, forcément. Forcément, faut être réaliste. Il n'y a pas eu de vainqueur depuis Yannick. Et quand tu remontes avant Yannick, je sais pas exactement combien d'années il y a avant. Donc il faut pas se cacher. Hein. C'est sûr qu'il y a des petits pays comme même la Croatie.
Oui.
enfin des plus petits pays que la France avec voilà Cilic, avec Ivan Isevich qui ont gagné des grands chelems. Donc forcément il manque des choses, mais je pense que il y a beaucoup d'anciens joueurs maintenant, ça avance bien. Je pense que ça voilà, il y a beaucoup de travail qui est fait. Il faut commencer tôt sur la terre battue, il faut avoir un énorme physique. Le tennis se professionnalise de plus en plus, donc il faut être à la page, il faut continuer en tout cas à progresser. Ce qui est important, j'espère en tout cas qu'il y aura des jeunes Français qui vont arriver le plus vite possible et qui vont, j'espère, rentrer dans les 10 premiers mondiaux.
Allez, deux questions politiques, en bref, question qui revient souvent quand on parle des tennismen. Bernard qui nous dit, jugez-vous normal d'être résident en Suisse alors que vous avez bénéficié des moyens, par exemple, de la Fédération de tennis? Il y a beaucoup de tennismen qui sont en Suisse. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Richard Gasquet?
Ouh là, c'est la question qui m'est revenue des dizaines et des dizaines de fois. Déjà, je suis en France maintenant, déjà.
Ouais.
Voilà, je suis plus en Suisse. Après, voilà, je remercie la carrière de tennisman. C'est quand même très court. On voyage beaucoup, on joue beaucoup à l'étranger, quand même. Donc, il y a pas, on joue quasiment. Moi, j'ai jamais été, enfin, quasiment sur le circuit. J'étais très très peu en France. Et voilà, c'est en tout cas, c'est sûr qu'on a eu de la chance d'avoir la fédération quand on était jeune. Je vais pas dire le contraire. Ça serait hypocrite de dire le contraire. Et forcément, on la remercie.
Merci d'avoir pris du temps pour nous, Richard Gasquet. À revers et contre tous, c'est chez Stock, préface de Raphaël Nadal. Et est-ce que vous pouvez passer un petit message à Fabrice Abgral, qui est à côté, notre spécialiste tennis à côté de vous? Vous lui souhaitez un bon anniversaire, s'il vous plaît.
Eh ben, je vous souhaite aussi un bon anniversaire, Bruno.
Salut Fabrice et merci beaucoup, Richard Gasquet.
Merci,
13h44.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun, c'est à venir.
C'est votre anniversaire.
Oui, c'est notre anniversaire à Fabrice et à moi-même, la team 27 mai. Est-ce que la France a durablement ruiné Haïti? C'est ça le vif?
Grande enquête du New York Times en anglais, en français et en créole.
Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À votre micro aujourd'hui, l'autrice et réalisatrice féministe Ovidie. Dans une autre vie, elle était actrice dans le cinéma X. Elle vient de publier aux éditions La Ville Brûle, Tu n'es pas obligé, avec l'illustratrice Digli.
Une sorte de guide sur l'acceptation de soi, le rapport à son corps et la sexualité. Un guide à destination des adolescentes. Tu n'es pas obligé de t'épiler, d'être origine, d'être hétéro, de faire l'amour comme le font les filles dans les films. Dans les films, ce sont des actrices. Ovidie l'a été, et c'est du groupe Berrurier Noir qu'elle a choisi de me parler.
Ce groupe-là, je l'ai découvert quand j'étais ado, je pense vers 94, donc à un moment où le groupe n'existait plus. Mais on était encore nombreux à écouter les Berrus à ce moment-là. On était plein de petits quepons, plein de petites queponnes à écouter ça. Et finalement, le rock alternatif n'était pas complètement mort, puisqu'il y avait encore cette mémoire des Berrus et des groupes qu'il y avait eu avant eux. Et c'est vrai qu'en ce moment, moi, je ressasse beaucoup toutes les questions d'adolescence. Enfin, en ce moment, je suis en plein dans l'adolescence. Vraiment, ça me travaille beaucoup. Je suis mère d'une adolescente, d'une lycéenne. Enfin, voilà. Donc, je suis en plein dans ce questionnement autour de l'adolescence et la colère et la haine et l'envie de rébellion. Et ce groupe-là et cette chanson-là, moi, j'ai découvert ça à un moment où j'étais dans cette envie de tout cramer.
La peur sur la ville, tu en es la cible.
Cette chanson a pour titre « Hélène et le sang », Frédéric.
Elle est sortie en 1985. C'est le récit d'un viol et ce titre a beaucoup aidé Ovidie quand elle-même a été victime d'un crime similaire.
Moi, j'ai été violée quand j'étais ado, à l'âge de 15 ans, par un mec qui était à peine plus vieux que moi, hein, qui avait, je pense, 16 ans, un truc comme ça. Et je m'en rappelle pas. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on m'a fait boire et voilà. Bref, une histoire assez classique, malheureusement assez classique. Et cette chanson, à l'époque, elle m'a beaucoup aidée. Parce que déjà, il y avait peu de chansons qui parlaient de viol. Il n'y avait pas de chansons qui parlent de viol écrites par des mecs, aussi. Et cette chanson, elle m'a fait plus de bien que, par exemple, écouter Barbara, où ça ne me donnait pas envie de dépasser ce traumatisme-là. Mais là, entendre des mecs énervés qui chantent tu peux compter sur moi, ou dans la version live qui disent, je trouve ça encore plus fort, tu peux compter sur nous, toi, Hélène, Hélène. Je m'appelle Héloïse, en vrai, et mon surnom, c'est Hélo. Et moi, je l'entendais souvent comme, tu peux compter sur nous, toi, Hélo, Hélo, quoi. Et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et quand, dans cette chanson, il dit, tu n'as plus rien à perdre, il te reste la haine, moi, je le vois comme un encouragement à la survie.
Il y a des chansons qui sauvent la vie. Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez dire ?
Je ne sais pas si cette chanson m'a sauvé la vie. En tout cas, elle m'a donné de l'énergie. Et l'envie aussi de continuer à parler, ne serait-ce que parler avec d'autres hommes. Parce qu'il y a des moments aussi où on se dit « fuck it, je ne supporte plus ». quoi. aussi. C'est pour ça que cette chanson-là, entendre des mecs chanter « tu peux compter sur nous, tu peux compter sur moi », waouh, mais quel soulagement, quoi. Quel soulagement. Et je l'ai réécouté à plein de moments... différents de ma vie, à des moments d'humiliation ou de choses comme ça. Et ça m'a donné la rage de me lever le matin, en fait, tout simplement. De m'impliquer dans des combats aussi, dans des combats militants. Je parle de mon féminisme. Mine de rien, voilà, cette chanson, elle représente ça pour moi.
C'est une chanson que vous avez fait écouter à votre fille ?
Ouais, elle connaît Hélène et le sang, mais je lui ai jamais dit que moi, c'était une chanson qui m'était chère. Et je lui ai encore moins dit les raisons pour lesquelles cette chanson m'était chère. Mais ouais, ouais, la relève est là. Hein. En 2022, il y a encore des petites adotes qui écoutent Hélène et le sang, ouais.
Berrurier noir, Hélène et le sang, c'était donc Frédéric, le choix de l'autrice et réalisatrice Ovidie.
Qui vient de publier « Tu n'es pas obligé » aux éditions La Ville brûle. Et puis elle a écrit et réalisé la nouvelle série de Canal+, « Des gens bien ordinaires » qui sera diffusée à partir du 6 juin.
C'est Véronique Olmy qui est avec Eva Bétan aujourd'hui dans le feuilleton. Cinquième entretien avec les auteurs en lice pour le prix du livre Inter. Véronique Olmy publie Le Gosse chez Albin Michel. Eva, comme chaque jour, quelques mots de l'histoire avant les questions.
Il s'appelle Joseph, il vit à Paris, il aime Paris. Pour sa mère Colette, il est mon roseau. Nous sommes juste après la Première Guerre mondiale. Quand elle meurt d'un avortement clandestin, il est chassé du paradis. Il est recueilli par l'État. Nous savons, grâce, j'ai envie de dire, à Jean Genet, mais nous sommes quand même stupéfaits. C'est ainsi qu'étaient traités les orphelins, les enfants de l'assistance publique. Rendus identifiables déjà dès le début à un uniforme, des sabots séparés du monde, il est censé être éduqué et il est criminalisé à la plus petite incartade jusqu'à une sorte de bagne pour enfants. C'est aussi l'histoire d'une reconstruction par les sensations, après le froid, la peur. C'est la musique et un amour interdit qui le feront se sentir vivant, car sinon il était à moitié mort. Il appartient donc à l'État. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que l'État peut en faire ce qu'il veut.
Oui, c'est un enfant de l'institution. Il y avait une notion d'hérédité très forte à l'époque, donc on pensait que ces enfants étaient issus de mauvaises femmes, de mauvaises mères, c'était de la mauvaise graine, il fallait les redresser. Et l'État se donnait pour mission de les mater corporellement, ça passe par le corps d'abord. C'est une vie militaire, on obéit aux ordres militaires, on marche au pas militaire, tout est codifié, tout est fait pour que vous ne soyez plus un sujet, mais un objet.
Je voudrais vous lire un extrait. Ce qui me frappe, c'est que tout de suite, à la seconde, on les met à part. Il faut les identifier même physiquement et eux-mêmes comprennent qu'ils sont différents. Il ôte son béret et se gratte la tête, mais ce geste familier n'a plus rien de familier. Hier, on lui a rasé le crâne et il ne se reconnaît plus. C'est dur sous la main, ça pique et c'est douloureux aussi. Il remet vite son béret et comprend que si lui ne se reconnaît pas, les autres l'ont reconnu. Il fait partie des assistés qui prennent le train pour la Somme. Ils sont une petite dizaine, des bébés, des jeunes garçons qui, comme lui, portent l'uniforme de l'assistance publique. Ils ne passent pas inaperçus, les enfants abandonnés, et il comprend qu'il n'a pas besoin de carnet ni de matricule. Ce n'est pas sur le papier que c'est inscrit, c'est en lui. Pourquoi le marquage ?
Parce que je pense que c'est quelque chose, vous venez de le dire, qui vous place à part. Et c'est un état éternel. Et Joseph, même quand il sera sous liberté conditionnelle, à partir de l'âge de 13 ans, l'âge auquel les enfants pouvaient travailler, il y aura toujours cette peur qu'on le reconnaisse, parce que c'est marqué. Et je pense que c'est fait exprès, d'une part pour quand il s'évade, pour qu'on les repère beaucoup plus vite, et ensuite parce que même à l'école, ils ne sont pas comme les autres, et il faut que ça se sache, parce que ces enfants-là, on a le droit de les faire travailler gratuitement et on peut se sentir surélevé à les abaisser. C'est comme une hiérarchie.
Il y a une chose qui me frappe, c'est l'isolement. C'est comment, dans votre livre, beaucoup de choses passent par les sensations. Joseph, à un moment donné, a besoin qu'on le touche pour se sentir vivant.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces enfants n'avaient pas de miroir. Ils ne connaissaient pas leur visage. On a du mal à imaginer ça, mais c'est très important, un visage. Et ils ne savent pas à quoi ils ressemblent. Ils sont coupés de leur généalogie, du récit, de l'enfance. Et quand Joseph rencontre ce garçon qui va l'aimer, qui va le regarder de façon aimable et le prendre contre lui, et qu'ils vont pouvoir... C'est interdit, c'est dangereux, ça fait peur, mais être tenu dans les bras de quelqu'un et reconnu, ça le sauve.
Il y a aussi le fait de raconter cette histoire-là aujourd'hui, comme on raconte sans pathos.
Ce que je retiens de Flaubert comme maître, c'est de ne pas donner le point de vue de l'auteur, de ne pas dire au lecteur où il doit aller, ce qu'il doit ressentir. Et donc j'ai essayé à mon humble niveau d'accompagner Joseph sans jamais dire « Regardez, là c'est quand même très triste ». Non, c'est comment lui le vit. Et il le vit dans la découverte, il n'anticipe pas, il ne sait pas ce qui va se passer. Et je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas qu'il sache. C'est ça, je pense, essayer de se placer à la hauteur de l'enfant.
Véronique Olmy qui publie Le Gosse chez Albin Michel et qui est en lice pour le prix du livre Inter. 5 nouveaux entretiens la semaine prochaine avec Eva Bétan.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, le journal américain de New York Times, publie une enquête au long cours sur Haïti, qui est appelée, espère le journal, à faire beaucoup de bruit. Elle concerne donc Haïti, dont les liens avec les États-Unis et la France sont serrés. Et le journal soutient que si Haïti est entré dans une spirale de malheur, la responsabilité en revient largement aux États-Unis et à la France, qui l'ont soumis à un endettement insupportable. Alors parlons avec vous aujourd'hui de la France, qui occupe le début et la fin de l'enquête.
Ah, les rapports supposés privilégiés d'Haïti avec la France, ils sont souvent à sens unique. 2004, vous vous souvenez, bicentenaire de l'indépendance du pays acquise en 1804 après une victoire sur les troupes de Bonaparte. Bah bon, le petit caporal vaincu par des Noirs, première nouvelle, ont dû se dire à l'époque beaucoup de Français. Depuis, la figure du général haïtien Toussaint Louverture est mieux connue, mais qui chez nous se souvient de l'événement dont parle l'enquête du New York Times, à savoir l'arrivée d'un délégué de Paris, Mako, qui, en 1825, est venu dire au président haïtien « Bon, on va reconnaître l'indépendance que vous avez conquise il y a 20 ans, mais il faut que vous payiez en 5 termes une somme astronomique afin de dédommager nos anciens colons. Sinon, eh ben Mako n'est pas venu seul et il désigne son escadre. » C'est Charles X, le dernier roi Bourbon, qui a choisi cette manière forte. La Restauration a ceci de commun avec notre époque, qu'elle est obsédée par les réparations. Sauf qu'elle veut réparer les horreurs révolutionnaires. La monarchie de Juillet proposera, en 1838, un échéancier moins défavorable, mais Haïti devra payer jusqu'en 1886, contractant à cet effet des emprunts qui la mettent entre les bains de banque française. Le point de vue du Times, c'est celui-ci. L'esclavage avait structuré Haïti, ensuite ce sera l'endettement.
Mais le journal américain a pris les moyens d'étayer ses affirmations.
Bah, quand une rédaction compte 1700 journalistes, sa chefferie peut déléguer 4 d'entre eux pendant plus d'un an pour plonger, je cite, dans des milliers de pages d'archives qui n'auraient jamais été étudiées par des historiens. Sauf que les historiens, ils en sont excellents à Haïti, citent leurs sources. On est heureux quand le Times le fait, rarement. Ainsi, ce registre de 990 pages conservé aux archives du monde du travail à Roubaix, qui contient les demandes d'indemnisation des familles de colons. On aimerait savoir mieux comment elles sont formulées. Évoquent-elles les massacres dont elles ont été victimes? Parce que les journalistes du Times ne semblent pas l'avoir découvert. Après l'indépendance, les derniers blancs, 3 à 5 000, ont été éliminés physiquement, systématiquement.
Et le New York Times date le début de la catastrophe de 1825, mais Que s'est-il passé entre l'indépendance 1804 et 1825?
Alors, le New York Times se contente de dire qu'Haïti attend le retour des Français et que son chef, Dessalines, construit une grande citadelle. Dessalines s'est proclamé empereur d'Haïti et installé au poste clé des militaires qui sont autant de féodaux. Son successeur dans la partie nord du pays, le roi Christophe, Aimé Césaire. Une pièce, la tragédie du roi Christophe, poursuit sa politique de coercition. La main-d'œuvre rurale est assujettie à un asservissement qui se substitue à l'esclavage. C'est le prix à payer pour maintenir une économie de plantation qui néanmoins diminue inexorablement. Puis s'ouvre un nouveau moment avec le président Boyer, celui qui va se trouver face à face avec l'escadre française. Il bénéficie, lui, de la durée. Il va garder le pouvoir jusqu'en 1843. Il bénéficie surtout d'un élargissement de son espace parce qu'il réussit à réunir Haïti et le territoire dominicain voisin, reconstituant la grande île de Saint-Domingue. Mais la greffe ne prend pas, sa politique échoue. Et en fait, Haïti, avant d'être étranglé par l'endettement, n'a pas résolu la question agraire qu'ignorent les journalistes du Times. Alors que les grandes plantations dépérissent, la multiplication des petites propriétés ne signifie aucunement l'émancipation des paysans qui survivent aux antipodes des commerçants des villes qui, eux, sont sous le contrôle des grands négociants. Vous me suivez, anglais, ouais, américain, ouais, français. L'endettement viendra s'ajouter au mal structurel haïtien, la fragmentation de l'espace.
Mais selon l'enquête, sans le remboursement de la dette à la France, l'État aurait pu par exemple construire des routes. Il calcule tous les préjudices subis.
Bah oui, il dresse des additions dont on ne voit pas très bien comment on pourrait y mettre fin. Le Times ajoute que 15 historiens et économistes ont été appelés à la rescousse pour faire en sorte que cette comptabilité ne devienne pas onirique et surprise. Presque tous aboutissent au montant auquel était parvenu en 2003 l'ancien président haïtien Aristide. Aristide, qui s'était fait conseiller à l'époque, paraît-il, par un cabinet américain et qui, s'appuyant sur la colère de la misère dans les bidonvilles, avait laissé espérer aux Haïtiens un dédommagement qu'ils se partageraient. Comment, on ne sait pas bien. Si le but du New York Times est de dire qu'Aristide avait raison, eh ben, il est rempli. Reste maintenant aux journalistes à mener une enquête sur le dit Aristide, qui n'est pas nécessairement le martyr qui dit la vérité.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La terre au carré du vendredi.
Oui, on va parler plastique, gibbon et des Parisiens qui font l'expérience de la campagne.
Tout de suite, ne mélangez pas les sujets. Hein.
Ouais, ouais.